je ressentais comme si mon esprit se dissociait en deux, quoi. Se déchirait.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange.
Le monde s'est dédoublé.
Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles.
Le monde s'est dédoublé.
J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide.
Le monde s'est dédoublé.
J'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait. Quand j'étais à l'école, j'étais une gamine très très calme, très posée. J'étais la meilleure de ma classe, j'avais des bons résultats scolaires. Enfin voilà, j'étais une gamine sans histoire.
Mais à l'époque, je me rendais pas compte de ce que j'avais. Hein. Je pensais que ça allait être passager. Hein.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre à l'instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
Hier, toi, moi, on a basculé. C'était tout noir et très bruyant. Des voix persécutantes aux angoisses incessantes. Des volutes de fumée aux sirènes d'ambulance. Loin des proches. Ou des proches qui s'approchent trop. Des chocs, des émotions feux d'artifice qui déclenchent, enclenchent, qui nous dévalanchent. L'agitation extrême. Puis, plus rien. Le lit, les draps comme un linceul, les hontes, les peurs, les solitudes, la réalité déformée, la norme dissoute. Comme si, sans s'en rendre compte, on hurlait pour une brèche, une marge, un endroit protecteur. Seulement, presque personne ne nous entend. À moins que toi, là, tu nous écoutes ?
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses...
Pendant que les psychoses...
Je tombe dans le vide.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une somme de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap. Groupe d'entraide mutuelle.
Épisode 1.
Hier, toi, moi, on a basculé. Et aujourd'hui, être là, réparé total ou à moitié. La joie tout près, avec cette envie ensemble de dire, de nous dire. Ça me fait penser, récemment j'ai entendu, le soin est collectif. Et ça faisait chaud dans les cœurs, dans les corps d'entendre ça. Je ne veux pas me développer personnellement, je veux me soigner collectivement. Alors, si on essayait.
Alors, je m'appelle Emmanuel, je suis né à Nantes, je suis né en 78 et je suis tombé malade vers 21 ans, d'une dépression au départ.
Je m'appelle Julie, j'ai 30 ans et je suis tombée malade assez jeune, je suis tombée malade à 15 ans du coup, lors d'un séjour scolaire en Espagne.
J'ai 65 ans bientôt, je m'appelle Pascal. J'ai passé le concours d'inspecteur externe des PTT. J'ai été reçu, les cours commençaient au mois de septembre à Toulouse. Pour valider l'école là-bas, il fallait faire des stages, bon, je les faisais à la poste de Saint-Nazaire. ce qui faisait que je me levais vers 4h30 du matin. Donc j'étais assez fatigué. Après, je me suis retrouvé donc, à Argenteuil. J'avais une amie pendant 4 ans qui m'a laissé tomber. Quand je suis arrivé donc, à Argenteuil, j'étais tout seul. Je quittais ma famille. Après, j'ai donc beaucoup d'événements sont intervenus, des chocs psychologiques.
J'étais à la fac et je me souviens, je fumais beaucoup de shit. Au lieu d'aller en cours, j'étais stressé, la boule au ventre. Je ne bougeais pas de ma voiture, je ne pouvais pas aller en cours ni rien. J'étais comme figé, quoi. Et ça a commencé comme ça. Enfin, si je n'avais pas fumé après la première dépression, je pense que j'en serais sorti. Hein. Mais après, j'ai continué. Donc c'était ça m'a foutu dedans, quoi.
En fait, j'étais loin de ma famille, loin de mes repères. Et du coup, ça a été vraiment la première crise que j'ai faite. J'ai commencé à entendre des voix. C'était des voix qui me disaient que j'étais quelqu'un de méchant, néfaste, enfin que j'étais pas. C'était des voix qui me parasitaient en fait au quotidien, tout le temps, et qui n'étaient pas réelles, que j'étais pas dans la réalité. J'ai commencé à me sentir persécutée. C'était très difficile. Je me sentais suivie dans la rue. Et aussi, je me rappelle que je parlais avec ma camarade de classe et qu'en fait, je disais que les autres ils me suivaient, que même mes camarades de classe, je me sentais persécutée par eux aussi. Et du coup, c'est très compliqué à gérer, pour eux aussi, je pense. C'est pour ça que la professeure a commencé à penser que j'étais vraiment mal. Et du coup, j'ai dû faire quand même tous ces jours dans cet état-là. Et dès que je suis rentrée en France, j'ai été hospitalisée directement en psychiatrie.
On avait décidé d'aller en discothèque. Et moi, en partant, je me suis trompé de parking. Et je suis tombé sur une bande de clochards qui m'ont agressé. Peu de temps après, donc c'était au mois d'octobre, j'avais un ami d'enfance à Saint-Révin, là, qui était mes voisins. Là. J'ai appris qu'il s'était tué en allant à Rouen. Et j'avais fantasmé avec un petit voisin dans mon immeuble. Il s'est tué sur le périphérique. Tout ça s'est produit en 1983.
Je trouvais que c'était des gens qui étaient marginaux. Et que quelque part, ce genre de marginalité, ça me plaisait, quoi. Comme si, en fait, je voulais expérimenter quelque chose de radical par rapport à l'esprit et tout ça, quoi. C'était une sorte d'expérience. Je voulais vivre une expérience intense. Et donc, je suis allé à Amsterdam. Là-bas, avec un copain, on a fumé, quoi. Et le premier joint que j'ai pris, en fait, j'ai eu des yeux. Mes yeux se sont allumés, en fait. J'ai eu des pensées qui sont passées à toute vitesse dans ma tête. Et après, je ne me souviens plus rien, tout est inconscient. Quoi. Pour moi, c'est le déclencheur. Il y avait l'hôpital qui ne croyait pas à ça, il disait non, pas le shit, le LSD, mais pas le shit. Et de plus en plus, ça se dit beaucoup dans les milieux des médecins, que le shit est le détonateur. C'est un déclencheur parce que le shit change la composition des pensées. Quand on pense de façon ordinaire, sans drogue, on a des pensées plus ou moins liées à une certaine réalité. Les drogues en général, enfin c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai vécu. En tout cas, c'était comme ça, j'avais des pensées en mots, M-O-T, quoi, qui défilaient dans ma tête, par rapport à la réalité, justement. Ça passait à toute vitesse. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ces pensées-là ont commencé à être un peu délirantes. Et je me souviens, je parlais à mes copains, et puis mes copains ils me regardaient, qu'est-ce qu'ils racontent, quoi. Je savais qu'il fallait que je change d'état mental. En même temps, j'y arrivais pas. Alors, c'était très compliqué, quoi.
J'ai vécu un choc émotionnel quand j'étais plus jeune. Du coup, j'avais 12 ans. Et je pense que c'est dû à ça que ma maladie est liée. En fait, ça a tout déclenché. Et c'est de là que tout est parti, en fait. Je m'inquiétais beaucoup pour ma mère aussi parce qu'elle vivait seule. Et que mon père était quelqu'un de très... Enfin, potentiellement dangereux pour elle. Je pense que je m'inquiétais énormément pour ma maman et du coup, c'est parti de là aussi. Je pense que c'est tout cet engrenage-là qui a fait que je me suis retrouvée prise en pleine bouffée délirante en Espagne à 15 ans et j'étais démunie.
Oh la dépression, j'ai pleuré. Je pouvais, déjà, à cette époque-là, j'avais des troubles de la pensée. Je ne pouvais plus penser, j'étais bloqué, quoi, je me souviens. Le médecin, il a dit à ma mère que j'avais eu une dépression très grave. Donc voilà. Mais le truc, c'est que, je sais pas, tout est chamboulé. C'est plus pareil qu'avant, quoi. On a l'impression que ce qu'on faisait avant, c'était nul. Et puis que, moi, c'était comme ça, quoi. Et puis même, par exemple, il y avait des copains qui parlaient ensemble. Et moi, je me suis exclu moi-même, quoi. En fait, comme si rien ne m'intéressait, quoi. Ça fait un peu ça. C'est peut-être un peu bateau de dire rien ne m'intéressait en dépression, mais... Mais il y avait, parce qu'il y avait l'angoisse en même temps, donc tout s'est chamboulé, quoi.
peu de temps avant d'être hospitalisé, j'avais été plus ou moins paranoïaque. Parce que comme on m'en voulait au bureau, je me sentais plus ou moins persécuté par... Elle me disait, mais c'est incroyable, en peu de temps, autant d'événements, parce que même pas en 6 mois, on va me licencier, ma copine me quitte, mon copain est mort. Et j'oublie sans doute d'autres questions psychologiques, parce que je pense, si j'en ai eu d'autres, peu de temps avant, au mois d'août, je me rappelle très bien, j'ai fait une bouffée délirante chez mes parents. Ils ont donc fait venir un médecin généraliste qui m'a conseillé de voir un psychiatre.
Une bouffée délirante, en fait, c'est quand tu entends des voix qui sont pas réelles, qui te persécutent. Et même quand je regardais la télévision, je regardais les informations, par exemple, et je me rappelle que j'avais l'impression qu'on parlait de moi alors qu'on parlait pas de tout le monde. En fait, je transformais les voix des gens, tout ça. Ouais.
Une bouffée délirante, c'est-à-dire qu'on est très angoissé, on parle assez vite, on exprime des choses soudaines, quoi. C'est-à-dire qu'on est, on se contrôle plus. On ne s'entend plus mentalement, quoi.
J'entendais des voix distordues, des gens distordus et tout ça, comme si mes perceptions étaient déformées.
Des moments, ça redescendait un petit peu, mais c'était très léger, en fait. Quand j'essayais de dormir la nuit, j'arrivais pas à dormir, j'étais en boucle sur ma mère. J'arrivais pas à le joindre par téléphone, parce qu'à l'époque, les téléphones, ça passait pas trop bien en Espagne, tout ça, enfin, c'était compliqué. J'étais en boucle sur ça et j'arrivais pas à la joindre, et plus j'arrivais pas à la joindre, plus ça m'angoissait, en fait, et c'était un cercle vicieux. J'ai pas dormi du tout pendant le séjour, j'avais manqué de sommeil et je pense que c'est que là tout est parti aussi en fait.
Je pense que le fait d'être fatigué, ça favorise beaucoup les troubles psychologiques. Hein. Le physique aide beaucoup au moral. Hein. Si on est en forme, on est moins susceptible à des problèmes psychologiques, ça c'est évident de toute façon, on l'a toujours constaté. Hein. C'est pour ça que chaque fois que vous voyez un psychiatre, il vous demande si vous avez bien dormi. Hein. Donc c'est essentiel pour lui de bien dormir pour être en forme. Hein. Donc ça m'a déstabilisé tous ces événements. Et après, peu de temps après, j'ai donc été chez une amie de Saint-Brévin-les-Pins un week-end, et puis à nouveau j'étais énervé. J'ai fait à nouveau une autre bouffée délirante. Elle appelait les pompiers, et donc je me suis retrouvé à l'hôpital à Argenteuil.
Le psychiatre que je voyais à l'époque, bon, il m'a dit faut que vous alliez à l'hôpital. Il avait dit à ma mère je ne peux rien faire pour lui tout seul. Mais entre-temps, j'ai pris ma boîte de Lexomine. Et donc, je suis allé aux urgences. Et donc, là, après, donc, on m'a amené à l'hôpital psychiatrique à Saint-Jacques. Après, je suis surtout resté dans ma chambre à l'hôpital. Je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. C'était en 99, ça date, quoi.
Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a tout de suite donné un traitement et on m'a assommée carrément. Hein. Je dormais toute la journée, j'étais très fatiguée. J'ai eu la première consultation avec le psychiatre. Il a dit que je resterais toute ma vie en hôpital psychiatrique, tout ça. Ça a été aussi... Ça m'a fait aussi réagir un peu et je me suis dit, mais non, je vais lui prouver justement que je ne vais pas rester toute ma vie en hôpital psychiatrique. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui m'a fait. Et je me rappelle qu'il y avait d'autres enfants avec moi à l'hôpital et que du coup, ça m'aidait aussi un peu à ressortir de ma bulle parce que vu qu'on est déconnecté de la réalité, quand c'est comme ça, c'est pas toujours facile. Le contact avec les autres m'a permis aussi de m'en sortir, je pense. En pédopsychiatrie, il y avait des jeunes, ils avaient 5-6 ans. Hein. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a aidé à aller mieux aussi parce que je me suis dit, mais ça arrive aussi aux autres et du coup, c'est pas qu'à moi que ça arrive.
Schizophrénie, en fait, c'est un peu compliqué parce que, pour dire les choses rapidement, j'ai des accès de schizophrénie, on va dire. Dans mes yeux, en fait, on voit que je sens comme si mon esprit se dissociait en deux, quoi. Des fois, on a des sortes de crises d'angoisse où les pensées et soi sont dissociées. C'est comme si, en fait, on pensait, mais qu'en fait, en même temps, on pensait, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est soi? Parce qu'en fait, je pense donc je suis. J'ai lu ça récemment, c'est une sorte de déréalisation. Ce qui fait que, quelque part, on est dans un monde où on n'est pas vraiment dans le monde. Quoi. C'est comme si on était complètement, complètement chamboulé. Quoi. Je me demande des fois si... Je ne sais pas, parce que des fois, j'entends des trucs et je me demande si c'est la réalité. Voilà, c'est ça. Les voix, c'est autre chose, parce que, par exemple, une fois, j'étais dans un restaurant, j'étais avec un copain, je sentais autour de moi une sorte d'agressivité, comme si on entendait des gens faire des borborygmes et tout ça, quoi. J'étais le nez dans mon assiette, quasiment, je n'osais plus bouger, quoi. Je n'osais rien faire, que de peur que quelque part, tout autour de moi, vienne un peu me faire du mal et tout ça, là. Et donc, ça, c'est un exemple de schizophrénie. Ouais.
Une phase basse, on n'a plus d'énergie, on ne peut plus rien faire. On n'a même plus la volonté de se lever, on reste au lit. On n'a plus envie de lire, on n'a plus envie de... On ne fait plus rien, quoi. Faut essayer de retrouver le goût de revivre, mais c'est pas évident parce que ça se passe pas en 15 jours, je vous l'assurer. Hein. C'est très long. Hein. Ils ont dit vous êtes fatigué, crise dépressive. À l'époque, j'ai jamais été bipolaire. Hein. D'ailleurs, à l'époque, on parlait pas de bipolaire, on parlait de crise dépressive, crise maniaque, pas maniaque, on disait maniaco-dépressif. Après, quelques années après, moi, on m'a dit cyclothymique. Ça fait à la limite que 15 ou 20 ans, comme dit bipolaire. Parce qu'à un moment, on ne pouvait pas ces termes-là. Hein.
Il y a des soirées avec les copains où on m'a insulté. Les gens sont assez violents, en fait, quand ils ne comprennent pas. Quoi. Soit ils me croyaient toujours normal, et puis en fin de compte, ils voulaient me voir comme quelqu'un de comme avant, tout ça, pour ne pas perdre le lien avec moi. Mais non, c'est plus trop comme ça. Mais à cette époque-là, je ne pouvais pas voir les gens. C'était vraiment trop dur de voir les gens. C'est pour ça que j'étais tout le temps chez moi, avec mon chien que j'allais promener tous les jours, et puis c'est tout. Quoi.
Bah, au départ, ils savaient que j'avais été à l'hôpital. Ils disaient carrément, il est fou. Parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on disait. Hein. Ils disaient, il est fou, qu'est-ce qui se passe, il est débile. Tout ça. J'ai entendu ça dans le bureau de poste. Hein. Ça rassure pas quand on entend ça, d'ailleurs.
Ils étaient très jugeants aussi. Quand on est adolescent, on a un peu, enfin, c'est l'âge bête, entre guillemets. Quand ils ont 15 ans et ils n'ont jamais été confrontés à la maladie avant, je pense. Et du coup, à ce moment, ils ont été très jugeants, très méchants. Et justement, déjà, moi, ça ne m'aidait pas parce que j'étais déjà dans mon mal-être. Et en plus, déjà, ils me jugeaient et ils étaient là vraiment. Heureusement qu'il y a les professeurs qui étaient là pour calmer les gens, entre guillemets, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait eux non plus. Et ben moi non plus, je comprenais pas ce qui m'arrivait en même temps, mais personne comprenait. Je crois qu'on était tous dans l'incompréhension totale, en fait. C'était tellement inattendu, en fait. Le fait que je prenais un traitement aussi, parce qu'ils le voyaient bien, j'étais en internat, donc je prenais un traitement tous les soirs. Du coup, ils se posaient des questions aussi, je pense, et moi, je leur disais pas forcément les réponses peut-être qu'ils avaient envie d'entendre ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils étaient assez jugeants, je trouvais, sur la maladie, quoi. J'avais quand même une amie qui a toujours été là pour moi. Et du coup, ça me faisait du bien aussi d'être avec elle, de passer du temps ensemble. On discutait beaucoup et... Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi dans ma scolarité à aller quand même jusqu'en terminale. Mais c'est vrai que ouais, le bac, je n'ai pas pu passer le cap, quoi. J'avais des traitements qui étaient beaucoup trop forts, surdosés en fait. Et du coup, j'avais été très sensible à la fatigue, au stress. Et après, j'ai essayé de passer mon bac et je suis retournée à l'hôpital directement en fait.
C'est sûr, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que... J'aurais aimé avoir des enfants, j'en ai pas eu. C'est, je pense que pour moi, c'est vraiment j'aurais bien aimé élever des enfants dans tous les sens du terme, quoi.
L'acceptation de la maladie, c'est très dur. Enfin, c'est l'étape la plus dure, je trouve, du parcours que j'ai dû faire. Maintenant, j'en ai plus du tout honte de ma maladie, mais à l'époque, j'en avais vraiment honte, en fait. Si j'en parlais pas avec mes camarades de classe, c'est simplement parce que j'en avais très honte. Au début, même dans ma famille, ils disaient pas que j'étais schizophrène ou que je trouvais des troubles psychiques. Enfin, ils disaient jamais ça. Maintenant, je me dis qu'il n'y a plus aucune honte à avoir et que c'est là et que voilà, maintenant, je vis avec et je vis très bien avec.
Peut-être que la schizophrénie m'a rendu marginal comme je l'aurais souhaité. Ouais. Je sais pas.
Tu peux voir ce que je ne peux pas voir, tu ressens ce que je ne ressens plus. Tu es une part de moi-même que j'ai garée en chemin. Maintenant tu es loin, maintenant tu es loin. Tu peux dire ce que j'exprime jamais, tu sais ce que j'ai mis du temps à oublier. Tu es dans un de mes rêves que j'ai garée en chemin. Maintenant tu es loin, maintenant tu es loin. Tu peux voir ce que je ne peux pas voir, tu ressens ce que je ne ressens plus. Tu es une part de moi-même que j'ai garée en chemin. Maintenant tu es loin, maintenant tu es loin. Tu peux dire ce que je n'exprime jamais, tu sais ce que j'ai mis du temps à oublier. Tu es dans un de mes rêves que j'ai garée en chemin. Maintenant tu es loin, maintenant tu es loin. Plus je vis, plus tu disparais. Moins je me souviens de ce que tu as été. Et tu habites dans mes nuits. Ce n'est plus qu'une question de temps pour rejoindre l'océan. Pour rejoindre l'océan. Plus je vis et plus tu disparais, moins je me souviens de ce que tu as été. Et tu habites dans mes nuits, ce n'est plus qu'une question de temps pour rejoindre le néant. Pour rejoindre le néant.
À suivre, épisode 2, Le monde crise, moi aussi.